Allez, Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France et sur le site internet anarchiste.info/radio/libertaire. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans l'émission Actualité Antifasciste pour son 7e numéro. Alors, un petit rappel, hein, notre émission est présente tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 17 à 18h30. Alors, aujourd'hui, le sujet abordé, ce sera l'Alvarium. L'Alvarium à Angers, on va expliquer très rapidement ce que c'est, hein. C'est un mouvement, ou plus exactement une communauté, active depuis quelques années. Donc, là, il est 17h, et donc jusqu'à 17h30, on va présenter cette dite communauté comme elle se présente sur son site internet. Et donc, à partir de 17h30, on analysera de façon plus approfondie celle-ci, en compagnie de Thomas, membre du réseau Angevin Antifasciste, que nous recevrons par téléphone. Donc voilà un petit peu le programme. Alors, immédiatement, je présente ce qu'est l'Alvarium, donc une communauté militante qui se décrit comme étant identitaire, hein, active donc sur Angers, comme je l'ai dit, promouvant une culture angevine, mais également la civilisation française et européenne, hein, comme elle l'explique. Et alors, pour défendre ces thématiques, elle prétend s'attaquer en particulier à ce qu'elle appelle les mineurs étrangers clandestins, arguant qu'ils bénéficieraient de privilèges du fait qu'ils seraient logés dans des hôtels réquisitionnés par l'État. Elle explique aussi vouloir lutter contre les, ouvrez les guillemets, banlieues immigrées, fermez les guillemets, afin de développer, je cite, le petit entrepreneuriat français. Et alors tout ça est justifié, hein, par une liste de préoccupations qui sont supposées constituer une doctrine, à savoir le nationalisme, le catholicisme social, le non-conformisme, l'enracinement et de façon générale la lutte contre l'immigration. Alors, en faisant quelques recherches, hein, il est possible d'en savoir un peu plus, hein, sur les idées que je viens de citer. Bon, le nationalisme tel que l'entend l'Alvarium, si vous avez étudié un peu la question, hein, c'est un courant de pensée qui a connu un très fort développement, notamment à la fin du 19e siècle, avec notamment des auteurs comme Maurice Barrès, hein, qui a rédigé un ouvrage intitulé « Scènes et doctrines du nationalisme ». Et alors, en feuilletant cet ouvrage sur Gallica, hein, la plateforme en ligne de la BNF, il est possible de se rendre compte que le nationalisme français a été largement théorisé au moment de l'affaire Dreyfus, face à ce qui était alors nommé la trahison. Et alors, cela voulait dire essentiellement que l'armée était censée avoir été trompée par une action conjuguée des Juifs et des Allemands. Donc, l'objectif du nationalisme était donc, à ce moment précis, de faire bloc contre cette pseudo-action anti-française, en quelque sorte cet ennemi de l'intérieur, comme Maurice Barrès pouvait l'expliquer. Et donc, ce courant de pensée, comme je l'indiquais il y a un instant, donnera naissance notamment à l'action française en 1899, avec Henri Vaugeois à la baguette, qui fut membre donc de la Ligue de la Patrie Française que présidait justement Maurice Barrès. Alors, pour en revenir à l'actualité, l'Alvarium, c'est un local qui est situé au 31 rue du Cornet à Angers et qui occupe aussi un immeuble au 17 rue Thiers, afin officiellement de pratiquer une préférence européenne en matière d'attribution de logements. Et alors, on en avait parlé ici même dans notre numéro du 23 septembre. L'Alvarium affirme en effet que l'attribution des logements dépendant du parc public font l'objet, je cite, d'une préférence étrangère qui serait un ingrédient de l'africanisation de la France et donc ici de la ville d'Angers. Et alors, en observant de plus près ce genre de, à la fois ses propos, mais aussi les auteurs qui sont derrière cela, alors on peut voir la main d'un certain Jean-Eudes Gana. Il a été candidat aux élections législatives partielles les 20 et 26 septembre dernier au sein de la 3e circonscription du Maine-et-Loire. Et alors, sans surprise, hein, vous pouvez vous imaginer un peu le genre de thèmes de campagne qui ont pu être développés à ce moment-là. Alors on a la lutte contre l'immigration, la racaille, tout ça pour favoriser, selon la profession de foi électorale de ce monsieur Jean-Eudes Gana, la liberté d'entreprendre, la famille ou encore la sécurité. Et alors, sécurité, quelle recette? Comment mettre en place une politique véritablement sécuritaire, une politique performante? Eh bien, selon Jean-Luc Gana, il s'agirait par exemple d'arrêter de naturaliser des personnes non européennes parce que, d'après lui, eh bien, elles seraient porteuses du terrorisme. Bon, alors, je vais présenter rapidement Jean-Luc Gana, et puis de toute façon, là, il est 17h05, notre invité n'arrivant pas avant une vingtaine de minutes, on fera une très longue pause musicale, on partira sur une vingtaine de minutes en musique. Avant ça, je vais terminer ma petite introduction. Jean-Luc Gana, c'est un ancien du Rassemblement National. Bon, donc c'est assez facile de comprendre pourquoi son engagement est avant toute chose identitaire. Et alors, dans son cas, il ressort de ses discours, spécifiques, une dénonciation du racket fiscal, de l'État omnipotent, du libre-échange international, des casseurs et de bien d'autres choses. Bon, tout ça met en avant le fait que Jean-Luc Gana souhaite avant tout durcir l'État dans ses fonctions régaliennes, libéraliser le commerce en le parant d'une étiquette nationale, arrêter, je cite, de verser des milliards aux soi-disant victimes de racisme et de violences policières. Qu'est-ce qu'il veut essentiellement ? Renforcer le pouvoir des patrons, renforcer le pouvoir de ceux qui gouvernent à l'heure actuelle. Et pour nous, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Donc, comme vous le savez, auditeurs et auditrices de Radio Libertaire, nous, ce qu'on cherche avant toute chose, c'est à lutter contre toute hiérarchie, entendu par là, toute inégalité, ce qui est évidemment pas le cas de Jean-Luc Gana et de l'Alvarium, dans l'absolu, pour qui la justice sociale consiste quasi uniquement en la discrimination de ceux et celles qui ne sont pas européens, et dans la préférence nationale pour tous les domaines, qu'il s'agisse de l'emploi, du logement, ou des équipements publics, vu que il explique vouloir s'attaquer, entre guillemets, aux enclaves étrangères qui se seraient développées sur le territoire français. Je vous laisse imaginer un peu quel genre de programme, quel genre d'idée ça peut véhiculer, quel genre d'actes aussi peuvent être commis au nom de cette volonté de chasser l'étranger de l'intérieur. 17h passées de 8 minutes sur Radio Libertaire. D'ici une vingtaine de minutes, je passerai un coup de fil à notre invité parce que, comme je l'ai dit en tout début d'émission, il doit intervenir par téléphone. Il est membre du réseau Angevin antifasciste et donc j'espère que, et je pense que vous espérez aussi, qu'il va nous éclairer sur l'Alvarium, sur Jean-Luc Gana et sur ce qu'il y a à faire pour combattre un peu toute cette structure et cet univers-là. En attendant, je vous laisse en musique et je vous récupère dès que j'aurai au bout du fil notre invité Thomas. Allez, à dans une vingtaine de minutes sur Radio Libertaire 89.4 en Ile-de-France et sur le site anarchiste.info/radio/libertaire. Allez, on reprend en l'antenne actualité antifasciste. Alors, comme je vous disais au tout début d'émission, aujourd'hui, on est accompagné d'un invité qui fait partie du réseau Angevin antifasciste. Il s'appelle Thomas et il est avec nous. Alors, Thomas, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu peux dire un petit mot pour voir si t'es à l'antenne?
Oui, c'est ok, bonjour à tout le monde.
C'est cool, on t'entend. Ok Thomas, alors je te souhaite la bienvenue sur Radio Libertaire, le 89.4 en Ile-de-France et le site anarchiste.info/radio/libertaire. Donc si t'es avec nous aujourd'hui, c'est pour parler de l'Alvarium. Du coup, comme je te disais juste avant de te mettre à l'antenne, l'Alvarium, c'est une... communauté militante, comme elle se présente sur son site internet, on en a parlé en tout début d'émission. Elle prétend pêle-mêle défendre des valeurs comme alors la culture angevine, la civilisation française et européenne, la préférence nationale et ce genre de choses. Et donc c'est pour ça qu'elle pratique ce qu'elle appelle une occupation. Alors pratiquait, parce que tu m'as dit que c'était plus d'actualité. Il me semblait avoir vu effectivement qu'il y avait eu une expulsion au 17 rue Thiers.
Tout à fait.
Ok, ça on va en parler dans un tout petit instant. En attendant, c'était ce que l'Alvarium appelait une occupation non conforme, un peu sur le modèle de Casapand. Et en attendant, l'Alvarium, c'est encore aujourd'hui un local du 31 au 31 rue du Cornet. Donc du coup, je vais te demander une chose simple. J'aimerais bien que tu approfondissent un petit peu ma présentation, notamment en axant un peu le propos sur Jean-Luc Gana, qui est donc son chef de file, si on peut dire ça comme ça.
Oui, tout à fait, un porte-parole, un chef, comme ils aiment bien avoir à l'extrême droite aussi, ça, d'avoir un chef qui dirige. Pour revenir sur les derniers événements dont tu parlais, c'est-à-dire leur occupation non conforme, pour pas dire un squat.
Oui.
Et donc c'était un bâtiment qui se trouvait inoccupé depuis plusieurs années, je pense, suite à un gros projet immobilier dans le quartier. Mmh. En fait, donc c'est les travaux devaient débuter pour la démolition de ce bâtiment. C'est à cette occasion que les entreprises ont découvert l'existence de ce squat et Dixit l'Alvarium, c'est à ce moment-là que eux se sont révélés au grand public, puisqu'ils étaient mis devant le fait accompli qu'un huissier était passé pour leur signifier de partir.
Oui.
En fait, l'Alvarium, depuis sa création...
De quand date exactement la création de l'Alvarium, Thomas ?
Voilà. Alors, on peut dire que la date de la création... Attends, je retrouve un peu parce que j'ai perdu tout ça. C'est en 2018. Donc, en fait, à l'origine, c'était dans un autre bâtiment que le 31 rue du Cornet, dans un appartement, en fait, d'un immeuble d'habitation, en fait, qui a posé aussi pas mal de problèmes par rapport à la copropriété. Mmh. Il n'était pas non plus très enchanté de voir un bar associatif ouvert au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Mais depuis la création de l'Alvarium, depuis leur création, en fait, ils pratiquent ce que ils appellent l'aide aux SDF français.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils vont dans la rue faire des maraudes et ils aident par des dons de nourriture, de sandwich, des SDF qu'ils choisissent bien sûr pour leur fait qu'ils soient soi-disant, enfin d'après eux, français. Donc c'est dans toute l'optique aider les qu'ils disent aussi beaucoup
les nôtres avant les autres.
Avant les autres. Voilà.
Ouais.
Et donc à cette occasion ils ont je pense gardé les clés d'un appartement où vivait ou a vécu ce fameux Jean-Yves Gana.
Mm-hmm.
Et je pense que ça s'est passé comme ça. Il a gardé les clés et il s'est dit, tiens, les clés marchent toujours. On va y loger des gens qu'on a rencontrés dans la rue et qui ont besoin d'un logement peut-être. Enfin, voilà.
Mais parce
ça, c'est leur propagande.
Oui. Mm-hmm.
Dans les faits, donc cette occupation, elle a duré un mois, je crois.
Mm-hmm.
Dans les faits, c'est des militants qui occupaient le lieu, des militants politiques classés à l'extrême droite. Hein.
Mm-hmm.
Il y a eu, pour nous, des militants venus de toute la France qui sont venus leur filer un coup de main, en fait, pour ça prend du temps, occuper un bâtiment, surveiller, voilà. Et il n'y a jamais eu, à notre connaissance, de SDF qui a vécu là, en fait.
Oui.
Mais ce bâtiment occupé était une excellente façon d'afficher leurs idées. Sur le bâtiment, les banderoles, c'était la France aux Français, halte à l'usure, des choses comme ça, quoi.
Oui. L'Alvarium a un lien du coup avec le bastion social, parce que tu m'expliques que ça a vu le jour en 2018, j'imagine en début d'année 2018. Est-ce que du coup c'est un lien avec le bastion qui a vu le jour à cette période-là, sur Lyon en particulier?
Voilà, alors l'Alvarium pour nous, qui l'avons observé, parce que voilà, le RAF c'est un peu ce qu'on fait, hein, d'organiser des manifs contre l'extrême droite.
Mmh.
Mais aussi beaucoup analyser leur discours sur Angers, quoi, et sur la région angevine. Pour nous, l'Alvarium, elle a toujours été assez proche dans les idées du bastion social. Je pense que des militants se côtoyaient quand le bastion social existait. Mais je pense que idéologiquement, le côté un peu trop laïque, peut-être, entre guillemets, moins marqué par la religion qu'est l'Alvarium, les opposait, ou les, enfin, je veux dire, les divergeaient, quoi.
Mmh.
Et stratégiquement, je pense qu'ils ont eu le nez creux, l'Alvarium, c'est-à-dire ne pas se revendiquer du bastion social, fait que quand le bastion social a été dissous, ils ne se retrouvaient pas dans la dissolution.
Mmh.
Et justement, maintenant, eux sont un peu les fers de lance d'une façon de faire qui s'apparente, qui est assez proche du bastion social, ouais, en effet.
Mmh.
C'est un peu la renaissance de cette façon de voir l'extrême droite pour eux. C'est assez proche. Idéologiquement, ils sont assez proches, je pense, du bastion social.
Oui, je pense aussi, hein, parce que c'est un peu les mêmes thèmes qui reviennent. Voilà. Mais du coup, tu expliquais qu'il y avait une séparation idéologique, une certaine séparation entre l'Alvarium et le bastion social du fait de la religion. Alors, c'est vrai que Jean-Hugues Gana se réclame notamment du catholicisme social. Voilà. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est une ligne de fracture vraiment, je dirais, vraiment importante ? Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'au contraire on peut trouver des proximités entre l'Alvarium et le bastion social qui viendraient un peu tempérer ton propos?
Je pense qu'ils sont assez proches, hein, mais c'est vrai que à l'Alvarium, et le chef Jean-Hugues Gana, lui, est très axé sur un traditionnalisme de la religion catholique, hein, une façon d'être de la vivre très traditionnelle, alors que le bastion social, pour moi, revendiquait plutôt un héritage européen, mais en étant plutôt flou sur la tradition catholique. Mais ils sont assez proches. Et d'après la propagande de l'Alvarium aussi, eux se revendiquent comme ouverts aussi à toutes les tendances de l'extrême droite.
Ah bon?
Ils se revendiquent aussi comme ouverts, voilà, à toutes les tendances, et disent que les militants viennent de plusieurs horizons de l'extrême droite. Dans les faits, je pense qu'ils sont assez proches d'une extrême droite nationaliste et catholique traditionnaliste, voilà.
Oui, je pense aussi. Mais ces horizons, est-ce qu'on peut les explorer de façon un peu plus profonde? Parce que si Jean-Hugues Gana, c'est un ancien du Rassemblement National qui, comme je le disais en début d'émission, hein, a été candidat aux élections législatives partielles des 20 et 26 septembre dernier au sein donc de la 3e circonscription du Maine-et-Loire, qu'en est-il des autres, à moins que ce Jean-Hugues Gana ne soit tout seul à la tête de son entreprise, là, l'Alvarium, les horizons, est-ce qu'on peut en parler un peu plus largement? Est-ce que tu as des connaissances sur le sujet que tu pourras nous faire partager?
Alors lui s'est présenté là aux dernières élections, en effet sur une élection qui était anticipée, enfin suite à un député qui arrêtait sa députation, voilà. Mmh. Et là il se revendiquait en tant que Alvarium, hein. C'est lui qui vient du FNJ, oui. Qui était au FNJ à Angers, en est parti.
Oui.
D'ailleurs, son père, qui était un historique du FN...
Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle Gana quelque chose, Gana forcément, mais c'est quoi? C'était pas Bernard Gana ou quelque chose comme ça?
Je sais plus, là j'ai oublié de te dire. Mais Monsieur Gana, on va l'appeler, oui. Lui, est exclu du FN dernièrement.
Ah d'accord. Pour quelle raison?
La raison idéologique, il rentre plus dans le cadre idéologique de Marine Le Pen. Oui. Je pense que lui représente une tendance qu'on pourrait dire, enfin la tendance autour de Jean-Marie Le Pen, quoi. Mm. Et quelques élus de l'Ouest ont été exclus donc du Front National. Mm-hmm. Et donc son fils, quand il s'est présenté à cette élection-là dernièrement, était d'ailleurs face aussi à une personne du FN. Mm. Où il était sous l'étiquette Alvarium.
Oui, 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 oui. Quand est-ce qu'il a quitté le Rassemblement National, Jean-Hugues Gana? Ça fait pas si longtemps que ça, pourtant.
Quand est-ce qu'il a quitté? C'est-à-dire que quand il est jeune, hein, il a 25 ans.
Oula, oui.
Il a 25 ans et aux élections municipales de 2014, là, il était présent sur la liste FN qui se présentait pour la ville sur la ville d'Angers. Et je pense qu'après qu'après cette élection, il a quitté le FN. Mmh. Donc après 2014.
D'accord.
Au moment où, je pense que c'est au moment où son père se fait exclure du Front National. Bon, dans les dates, je suis pas trop sûr de tout ça, mais oui. Ça correspond en gros à ça. Hein.
Ouais, parce que ça fait quand même un petit moment du coup que son père a été exclu du RN parce que Marine Le Pen, c'est vrai, a recomposé son parti dès le début des années 2010. Elle continue à le faire aujourd'hui, même si on sait que la ligne Philippot elle est plus, elle a quand même pris un coup du fait du départ du principal intéressé. Ceci dit, oui, on a parlé tout à l'heure des horizons hein, d'où provenaient les militants de l'Alvarium. Quid des autres militants qui accompagnent Jean-Luc Gana dans cette entreprise? Est-ce que tu as là aussi tu as de quoi nous parler?
Alors,
Thomas?
Oui. Pour beaucoup, je pense que c'est des jeunes étudiants. Mm-hmm. Pour beaucoup, il y a quand même une jeunesse qui se retrouve là.
Oui.
C'est des gens qui ont... Alors, historiquement, je vais revenir un petit peu sur l'historique pour comprendre un peu ça. Je pense que nous, sur Angers, l'extrême droite, depuis des années, enfin, il y a quelque temps, on ne la voyait pas. Le FN, pendant longtemps, a fait des scores assez ridicules par rapport au reste de la France, un peu comme l'ouest de la France. Enfin, voilà, c'était pas une terre qui votait beaucoup FN. Mmh. Donc, déjà, les militants FN, on les voyait pas trop, ça existait pas trop. Mmh. Voilà, et les militants d'extrême droite sur Angers, moi qui ai milité depuis 20 ans, bon, on en entendait rarement parler, on s'inquiétait peu de leur présence dans la rue, par exemple. Et c'est vraiment la manif pour tous. Cette période de grande manifestation qui les a fait pour beaucoup des jeunes qui se sont retrouvés ensemble de diverses tendances de la droite et qui se sont mis... à se voir pousser des ailes. Et les premières choses qu'ils ont faites, donc c'est un peu dont Jean-Luc Gana est issu, c'est une bande de jeunes qui se retrouvent, qui fait un peu le coup de poing à la fin des manifs ou des contre-manifs que nous, on pouvait faire, et où le but, c'était d'aller chasser du gauchiste, quoi.
Oui, oui. Ça...
Et des exactions dans la rue comme ça, ils en ont fait plusieurs sur taguer un lieu de gauche, voilà, ça a commencé comme ça. Je pense que pour eux, la manif pour tous, ça a été un moment de se rencontrer et de se mettre à faire de la politique ensemble, de la politique à l'extrême droite, quoi.
D'accord. C'est intéressant parce que la manif pour tous, on en a parlé le mois dernier hein, ici à l'antenne d'actualité antifasciste. Alors, pour la situation parisienne, francilienne, par exemple, en fait, la manif pour tous, même si elle continue à faire quelques rendez-vous par-ci par-là, il y en a eu un il y a 3 semaines par rapport à la PMA pour les femmes seules et pour les couples de femmes. La manif pour tous, quand même, est pas forcément très puissante en ce moment. Nous, on nous a expliqué, quand je dis on, c'était le collectif La Jeune Garde, le nouveau collectif La Jeune Garde Paris, dont deux de ses membres étaient présents à l'antenne, donc dans l'émission d'il y a 2 semaines. Ils nous ont expliqué. L'un d'entre eux nous a expliqué que la manif pour tous maintenant, en tout cas sur Paris, ailleurs je sais pas, mais avait des liens de plus en plus forts avec la cocarde étudiante. Est-ce que c'est le type de mouvement du coup qui développe sur Angers des liens avec l'Alvarium?
Alors, par exemple, pour revenir, la cocarde étudiante, voilà, s'implante sur les facs en ce moment sur Angers.
D'accord.
Et ils ont vraiment eu des liens avec l'Alvarium justement.
D'accord.
Je pense des liens des liens d'amitié, des liens aussi de façon de comment dire, d'aller coller ensemble, peut-être, de faire des actions de rue ensemble. Et la cocarde étudiante qui, je pense, essaye de monter une antenne sur Angers, a besoin, je pense, aussi de l'Alvarium comme soutien un peu dans sa lutte, quoi.
Oui.
Ce sont des gens à l'Alvarium qui sont plutôt aguerris à la politique. Enfin, aguerris dans le sens, ça fait 2-3 ans qu'ils ont un lieu ouvert, tout ça. Je pense qu'ils sont capables de donner aussi un soutien aux jeunes qui essayent de monter un syndicat étudiant sur Angers, un syndicat d'étudiants d'extrême droite, la cocarde qui est plutôt liée au Front National.
la cocarde qui est plutôt liée au... alors après, ici en février, on avait fait une émission réservée à la cocarde étudiante. Alors, il s'avère que la cocarde a été fondée par un ancien des Républicains, comment il s'appelle déjà, Luc Lahaye, si je ne dis pas de bêtises, mais qui n'est plus du coup républicain. Sur Angers, la cocarde, t'en as parlé là brièvement, mais comment est-ce qu'elle essaie de s'implanter? C'est quoi? C'est l'université Saint-Serge, c'est comme ça que ça s'appelle?
Alors, il y a deux universités à Angers, l'université Saint-Serge, qui est une fac plutôt de droit économie, qu'on appelle fac de droite par chez nous, et puis la fac plutôt de Belbeil, qui est plutôt la fac gestion, histoire, langue, tout ça.
D'accord.
Alors, moi, sur le côté... leurs activités au sein du milieu étudiant, ben je suis peu du tout étudiant, moi, et ça fait longtemps que je ne suis plus. Donc je peux pas exactement dire comment ils se développent, mais on est bien sûr au sein du RAF en lien avec des gens de Sud étudiants, par exemple. Il faut remonter des informations sur leur présence, leur tractage, voilà. Mais je pense que c'est un syndicat qui essaye de s'implanter en ce moment sur Angers. Qui n'a pas encore vraiment qui n'a pas encore vraiment pignon sur rue, hein.
Ah oui, qui a peut-être pas encore vraiment pignon sur rue, mais enfin la cocarde, c'est quand même effectivement alors déjà syndicat étudiant, oui, c'est relatif, enfin, c'est une organisation étudiante, on pourrait dire, mais il n'y a pas qu'à Angers du coup, hein, parce qu'on en a effectivement on en a parlé le mois dernier. C'est quand même une organisation qui revient quand même au centre de pas mal de, enfin qui revient au centre de l'actualité en ce moment. Enfin, si la Jeune Garde Paris, hein, pour le coup, s'est créée, c'est notamment par rapport à ce groupement-là. Est-ce qu'on a d'autres types de liens avec des organisations du même type que la cocarde étudiante, avec l'Alvarium, du coup?
Alors, ça, c'est un peu pour revenir dans l'histoire, mais au début de l'Alvarium, avant la création de l'Alvarium, ces gens-là aussi se sont rencontrés au sein du RAID, Rassemblement des étudiants de droite.
Oula, c'est quoi
aussi,
ça
une tentative de créer un syndicat d'étudiants dans la fac d'Assas, je crois. Et à Angers, eux, ils avaient monté un peu l'antenne d'Angers.
Ça daterait de quand, ça? Parce que là, pour le coup, j'ai absolument aucun souvenir de ça.
Alors, le RAID, chez nous, ça datait de 2000... que je retrouve les dates... ça datait de, aux alentours de 2016-2017.
Ah oui, c'est quand même récent.
Sur Angers, par exemple, dans ces années-là, ils ont fait une manif contre. C'était au moment de la manif pour tous. C'est un restaurant Angers, un Subway, avait créé un peu la polémique en faisant un sandwich réservé, une hausse promotionnelle réservée aux couples qui seraient hétéros. Enfin, il y avait un truc un peu bizarre qui avait été dénoncé par Sud étudiants comme un peu quelque chose de sexiste et d'homophobe, quoi. Le RAID s'était mobilisé pour aller porter son soutien aux restaurateurs, quoi, qui pour eux étaient injustement accusés par les gauchistes. Voilà. Et d'accord. Aussi, ils ont fait un coup d'éclat, c'était aussi aux alentours de 2017, là. On avait eu Philippe Poutou qui était venu sur Angers.
D'accord.
Et eux, pour un meeting. Et eux, ils avaient débarqué à 20 avec fumigène, banderole devant le meeting en disant Philippe Poutou, rentre dans ton goulag, enfin des choses comme ça.
Ouh là là.
Une action qui avait beaucoup, frappé sur Angers dans le sens. On est un peu la ville, c'est la douceur angevine, c'est aussi une ville où politiquement c'est très lisse, hein, il n'y a pas beaucoup de coups d'éclat comme ça. Et le fait que l'extrême droite soit venue devant un meeting du NPA faire le coup de poing ou tenter de faire le coup de poing avait beaucoup surpris, quoi.
Ouais. Tu parles de douceur angevine et de comment t'as qualifié ça déjà de lisse. Oui, c'est lisse politiquement. Alors par contre, j'aimerais quand même qu'on parle rapidement, parce que vous en parlez sur le site du réseau Angevin antifasciste. J'aimerais qu'on parle rapidement de comment la mairie réagit à ces histoires-là, parce que si on vous écoute, la mairie est quand même relativement complaisante. Le maire, j'ai oublié son nom, je l'avais trouvé tout à l'heure.
oui. Monsieur Béchu.
Oui, c'est quoi? C'est Christophe Béchu, c'est ça?
Voilà.
D'accord. Alors lui, il vient des Républicains, mais si j'ai bien compris, il n'y est plus aujourd'hui. Quelle est un petit peu son attitude vis-à-vis de l'alvarium, sachant que vous, oui, comme je le disais, vous parlez quand même, vous dénoncez une certaine complaisance.
Voilà, alors Monsieur Béchu qui a été élu en 2014 et qui a repris la ville à une mairie qui a longtemps été à gauche, gauche PS, issue de la CFDT, pendant très longtemps, hein, 77 jusqu'à 2014. Donc lui, il reprend la ville et dans son équipe, il vient des Républicains quand il a été élu, dans son équipe, il y avait deux personnes plutôt tendance Manif pour tous, justement. Bon, lui, il a fait une liste municipale avec ces deux personnes, hein, en connaissant. Et là, maintenant, on pourrait dire qu'il est Macron compatible. Il retourne sa veste d'une façon. Il sent bien que la droite, maintenant, c'est Macron.
D'accord.
Et que les Républicains ont tendance à se radicaliser plutôt vers le FN, quoi.
Oui, complètement.
Pour faire simple. Ben, complaisance, oui, c'est ce qu'on se dit, c'est que plutôt que, enfin, il a surtout donné aucune interview dénonçant le fait que l'alvarium soit présent sur Angers. C'est plutôt tout ce qu'on lui reproche aussi, c'est le fait de rien dire à leurs propos, de ne pas dénoncer alors qu'il se dit être le champion des Républicains, enfin d'être dans un esprit républicain et tout ça. Nous, ce qu'on lui reproche, c'est le fait de ne pas dénoncer la présence de ces gens-là sur Angers et de ne rien faire pour leur nuire d'une certaine façon.
Ouais,
quoi.
Pour enfin, leur barrer la route, ouais.
Bah, pour leur barrer la route, voilà.
Mais d'après toi, pourquoi est-ce que Christophe Béchu ne réagit pas face à l'implantation de l'alvarium?
Moi, je pense que c'est une façon aussi de ne pas attirer l'attention. On est dans une ville où le combat politique, comme je vous dis, est assez. On n'est jamais dans l'excès. On est toujours on se semble toujours être dans le consensus. Et je pense qu'en fait, oui, c'est surtout aussi pour ne pas attaquer. Je sais pas trop quelle est l'attitude vraiment ce qu'ils pensent.
Ouais, mais
ils en pensent au fond. Mais c'est plutôt nous ce qu'on leur reproche, c'est de ne rien en dire, quoi.
Après, là tu parlais de douceur angevine, elle est quand même mise à mal par l'alvarium, donc.
Voilà. Là, on peut revenir. Oui. Ouais.
Et puis en plus de ça, si tu parles de proximité entre Christophe Béchu et certains éléments de la Manif pour tous, c'est pas non plus si étonnant que du coup l'alvarium s'implante sans que ça pose vraiment problème.
Oui, tout à fait. Après, les gens de l'alvarium sont des gens qui qui trouvent que toute la droite plutôt n'est que soit des hypocrites, soit ne va pas assez loin dans les idées droites, quoi. Aussi,
Ça, c'est ce que dit l'alvarium?
Oui, c'est ce que dit l'alvarium. Je pense qu'ils sont vraiment dans l'optique que pour eux, les vraies valeurs de la droite, c'est eux qui les défendent. Tout le reste n'est que. Ce sont des hypocrites, quoi.
Tout le reste, c'est-à-dire?
Tout le reste à droite, les Républicains. Même le Rassemblement National, je pense que pour eux, c'est qu'une droite molle.
Ouais,
pour eux, le Rassemblement National, c'est ça le... Voilà.
Après, en fait, il n'y a pas qu'à Angers qu'on voit ce genre de dissidence et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a deux mois, il y a un mois et demi quand Hervé Delorde était venu ici, il nous avait expliqué, on avait parlé rapidement du cas de Tarascon, par exemple. C'est à titre d'exemple, hein, où effectivement, on a une candidate au municipal, Valérie Lopi, qui a fait, entre guillemets, sécession du RN pour aller plutôt vers Civitas. Et d'ailleurs, j'avais vu sur un débat sur l'antenne régionale de France 3 à l'occasion des municipales où elle s'en prenait violemment au candidat RN. Et effectivement, dans son idée, le RN a quand même des lacunes. Mais du coup, quid de la présence du RN, tiens, sur Angers ? Parce que du coup, si on a l'Alvarium qui ne fait pas, avec Jean-Luc Gana, hein, qui donc ne fait plus partie du RN, comment est-ce que cette force politique à Angers se manifeste-t-elle ? Est-ce qu'elle a une force quand même visible ? Et qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ?
En fait, le RN, comme je dis, historiquement, il faisait de très mauvais scores, donc ils n'ont jamais pu s'implanter en termes de militants sur Angers. Il n'y a jamais eu de grosses forces militantes dans la région. Donc déjà, ils sont souvent à la ramasse, quoi. Et là, l'histoire de M. Gana qui en est exclu, de son fils qui fait ça, leur a privé aussi d'une jeunesse de militants qui auraient pu les rejoindre. Et ce qui fait qu'aux dernières élections municipales, ils ont fait un score minable. Ils avaient vraiment un candidat nul, quoi. Mais même si on réfléchissait pas en termes de politique, enfin, quand les débats où il était présent dans les médias, enfin, c'est risible, quoi.
Qui ça, Gana ou le candidat
RN ? Non, le dernier candidat à la mairie, je sais plus son nom. Je peux vous dire, mais qui s'est présenté sous l'étiquette Rassemblement National. Et c'était vraiment pas terrible, quoi. Donc dans la rue, dans les manifs, on les voit très peu, les gens du Rassemblement National. C'est vraiment l'Alvarium qui a pour nous pris l'ascendant de l'extrême droite sur Angers, quoi.
Mais qu'est-ce qu'elle fait comme manifestation, l'Alvarium, du coup, à part la manif pour tous, hein.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle fait comme... on peut peut-être un peu parler de ça aussi, parce que donc leur but, c'est d'avoir un lieu. Ils se définissent comme un centre d'action sociale. C'est un peu pour aussi copier un peu tout ce qui est tout ce qui a été le gauchisme culturel, ce qu'on appelle, voilà, faire de la politique et autre chose pour aussi amener du politique dans autre chose, quoi. Donc action sociale, parce que donc ils ont toute leur com qui est basée sur le fait d'aider les SDF français. Ça, c'est un pan. Et donc ils ont un lieu, donc un local, ce qui dit donc ils organisent des conférences. Ils ont fait venir Jean-Yves Le Gallou, par exemple. Ils ont fait venir des personnes qui ont écrit un bouquin sur Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, le mouvement d'extrême droite des années 60-70.
Oui. Oui.
Donc voilà, il y avait un bouquin qui avait été écrit par deux militants d'Ordre Nouveau qui racontent leur parcours de militants, quoi. Donc ils ont fait venir, par exemple, ces deux gars-là.
C'était lesquels ? Parce que deux militants d'Ordre Nouveau, sachant qu'Ordre Nouveau, c'est quand même le début des années 70, donc qui étaient ces deux militants,
hein.
Oui, mais qui étaient-ils ?
Alors, les noms, une colle, là, je ne sais plus. Pour aller voir sur notre site, on avait sur notre blog, on avait fait alors, je ne sais plus, je vais essayer de te retrouver, mais ça va me perdre dans mon idée. Je retrouverai tout à l'heure. C'était un bouquin écrit par deux anciens militants, hein, qui racontent leur histoire à Ordre Nouveau, quoi. Donc des conférences sur le catholicisme aussi. Ils sont en lien avec un curé, un moine traditionnaliste d'une abbaye dans le nord du département.
D'accord.
Donc qui vient leur faire une conférence sur l'histoire de la chrétienté, tout ça.
D'accord.
Et aussi, avec le Covid, là, ça change un peu les choses, hein, parce qu'ils peuvent moins ouvrir, je pense. Mais ils essayent aussi de faire des soirées fléchettes.
Soirées fléchettes.
Guitare, cours de. Alors, par exemple, pendant les. Quand il y avait eu les révisions du bac, ils faisaient cours de révision du bac. Quand c'était le Covid, ils ont eu plusieurs actions comme ça où ils font des soirées à thème ou des où on va regarder un match de rugby ensemble à la télé. Ils essayent de multiplier ce genre de soirées dans leur bar, mais souvent, en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est une réunion de copains. Une réunion de copains autour d'un tournoi de fléchettes en train de boire des coups, quoi.
Oui, ça vole pas non plus très très haut. Hein.
Voilà. Et ils sont pas très persévérants, je trouve, dans les actions. Par exemple, les cours de guitare, ça a eu lieu une fois. Les révisions, il y a eu une fois. Il y a pas pour moi de vrai. Bon, ils tentent des choses. Ouais. Ils essayent des soirées à thème. Ils voient si ça prend pas, ils passent à autre chose.
Ils essayent de faire de l'action sociale, mais s'ils commencent à sélectionner, par exemple, quand on fait des cours de révision, s'ils sélectionnent les élèves selon leur nationalité ou autre chose, ça va pas aller loin. Donc, c'est bien le problème.
Voilà. Alors, ce qu'ils ont aussi beaucoup fait, c'est ils nourrissent les SDF en achetant des sandwichs à la supérette du coin et en les distribuant. Et ils sont très forts pour se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de ça chez ces militants. C'est que c'est pas pour les sous-estimer et dire qu'ils sont loin de nous de dire qu'ils sont pas inoffensifs. Mais c'est vrai quand on observe aussi vraiment leur façon de faire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de com sur les réseaux sociaux,
beaucoup d'ostentation, on pourrait dire.
Voilà, et que dans les faits, c'est vraiment à relativiser aussi de la puissance de ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Nous, par exemple, ça fait 2 ans qu'ils disent que ils ont un potager communautaire, qu'ils font des légumes et qu'ils récoltent à la saison pour nourrir. Faire un repas avec des SDF ou des choses comme ça, pour comme ils aiment bien s'enraciner, et ils sont enracinés, quoi. Mmh. Et nous, par des militants d'une autre orga antifasciste, se sont rendus compte, sont allés sur les lieux de ce potager, et en fait, c'est la friche, quoi.
La friche,
Ils font une belle photo quand ils plantent à la saison, au mois de mai, quand ils plantent 3 pieds de tomates. Et puis ça pousse pas parce qu'ils s'en occupent pas. Et puis en fait, c'est de la com pour mettre une belle photo sur les réseaux sociaux en disant qu'on fait un beau potager communautaire. Mmh. Et c'est souvent aussi c'est du flan, quoi.
Ok, ouais. Mais du coup, est-ce que ça se réduit à la communication, leur action, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus fourni, d'un petit peu plus sérieux et du coup d'un petit peu plus dangereux?
Alors, dangereux, on pourrait aussi quand même parler de ça, c'est qu'ils multiplient pour beaucoup les condamnations judiciaires, pour coups et blessures, pour des actions coup de poing, quoi. Par exemple... l'une des derniers où un militant de l'Alvarium va passer en procès. Mmh. Et au Mans, il y a quelque temps, au Mans, il y avait eu une manifestation pour commémorer le souvenir de Vendéens pendant la guerre de Vendée qui avait été massacré au Mans. Mmh. Et donc, il y avait une marche au flambeau, ou pas une marche, non, un rassemblement au flambeau à cette occasion.
C'était quand ça? Parce que ça me dit quelque chose, c'était pas organisé par l'Action française?
Alors, il y avait des militants de l'Action française, en effet, sûrement présents dans ce. À ce moment-là. Je recherche exactement les dates. Alors, c'était en 2019, c'était en novembre 2019.
D'accord.
Il y a un an.
D'accord.
Ouais, ça passe vite. Mmh. Et donc, à cette occasion, il y avait une marche au flambeau qu'ils appelaient, des militants plutôt proches des traditionnalistes catholiques ont commémoré ce massacre de Vendéens. Mmh. Et les militants de l'Alvarium s'y sont rendus sûrement assez nombreux pour être présents, parce que c'est pas loin, Angers-le-Mans, c'est très proche. Mmh. Et à la fin de ce rassemblement, plusieurs jeunes se sont retrouvés et se sont dit, tiens... j'y étais pas, mais d'après ce qu'on peut en savoir, tiens, on va se retrouver, on va les casser du gauchiste en ville, quoi. Mmh. Et ils se sont attaqués à un bar qui est au Mans connu pour être le bar où la gauche va, quoi. Enfin, je connaissais pas ce bar, mais voilà, et ils l'ont attaqué. Et puis après, ils se sont affrontés. Ils se sont affrontés à la police puisque la police est arrivée. Mmh. Et il y a eu des interpellations. Et dans l'eau des interpellations, il y a un militant d'Alvarium.
Ok.
Qui passera en procès pour, je ne sais plus exactement quoi, mais coups et blessures sur la police.
Quand est-ce qu'il passera en procès?
Alors, le procès devrait avoir lieu, je pense, dans peu de temps. Il pose des questions un peu trop précises. Je vais retrouver sûrement les...
Oui.
Voilà, il y a eu d'autres actions. Le frère Gana, le frère de Jean-Luc Gana, lui, a été condamné pour plusieurs fois des propos racistes dans la rue, suivis de coups et blessures sur des gens pour leur couleur de peau, par exemple.
Comment il s'appelle celui-là? Parce que c'est pas François-Aubert Gana, des fois?
Voilà.
D'accord.
C'est François-Aubert Gana. Et donc, lui, il a quand même été... je retourne. Voilà, lui, il a été condamné en mai 2017 à 10 mois de prison avec sursis, quand même. Mmh. Et 175 euros de tige.
175 euros de tige.
175 heures. 175 heures de tige.
Oui.
Bon, après, il a été, il a fait appel parce qu'il disait qu'il n'avait pas souvenir d'avoir des propos racistes. Mmh. En gros, c'est une histoire de devant un bar où il dit à un gars quelqu'un de couleur, il lui dit qu'il a plus de lui, il a un singe qui a beaucoup plus de race que lui.
D'accord. En fait, okay.
Des horreurs, quoi. Mm. Il a été condamné aussi. Donc voilà, ça c'est lui. Non, il a été condamné deux fois aussi. Une autre fois, le 29 novembre 2017, à 3 mois de prison et 2 avec sursis.
D'accord.
Voilà. Souvent, c'est donc des coups de poing dans la rue. Hein, pour des, à un moment, ils se sont pris quand même aussi le jeu d'aller dans les rues, se faire les justiciers de la ville, quoi, un peu, on a l'impression.
Oui, et ce qu'ils faisaient comme génération identitaire sur Lyon à une époque, là, avec les patrouilles anti-racailles, ça leur arrivait de faire ça à l'Alvarium?
Alors nous, je pense que les militants l'ont fait, donc justement un peu, l'ont fait individuellement. Enfin, ils n'ont jamais, je crois, affiché une patrouille comme ça, comme avait fait Génération Identitaire.
Oui, parce qu'eux, ils s'étaient mis des vestes jaunes claires, voilà. Et tout ça. On voyait qu'eux, en plus, ils étaient dans le métro. Donc, voilà. Oui.
Et non, il n'y avait pas, Angers, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de trucs de ce...
Oui.
De ce type-là. Mais nous, par exemple, tu vois, là, on compte à peu près 4-5 militants de l'Alvarium qui ont des problèmes judiciaires pour des violences, quoi.
Et donc, ils sont quand même poursuivis.
Ils sont poursuivis. Alors, eux, ils vont te dire que c'est... qu'ils sont odieusement poursuivis et que les racailles, eux, on les emmerde pas. Alors, oui. Mais dans les faits, quand tu analyses le truc... si tu venais d'un quartier d'Angers sensible pour ce qu'ils ont fait, ça aurait été de la prison directe. Alors que eux ne font que de la prison avec sursis. Ils ont des bons avocats.
Ils ont des garanties de représentation aussi, j'imagine.
Voilà.
Parce que Jean-Luc Gana, tiens, là, pour en revenir à lui, il fait quoi celui-là? C'est un chef d'entreprise, d'après ce que j'ai compris, mais de quelle entreprise exactement?
Alors voilà, ça c'est un peu le truc qui me questionne, parce qu'en fait, ce lieu, par exemple, comme l'Alvarium, demande de payer un loyer, demande de payer l'électricité.
Oui.
Voilà, il y a des frais. Nous, pour beaucoup dans le RAF, pour avoir été des militants aussi associatifs qui faisions, qui organisions des concerts ou des choses comme ça, on voit très bien comment ça fonctionne. Il faut quand même faire un concert pour que l'argent rentre, pour payer le loyer. Mmh. Et en effet, dans ce lieu... qu'est l'Alvarium, on ne voit pas non plus d'événements qui pourraient rapporter un peu d'argent pour payer tout ça. Et en effet, on se pose la question de leur financement, d'où vient cet argent. Et pour le cas de M. Gana, ça c'est un peu les derniers événements qui se sont passés sur Angers. C'est-à-dire qu'un journal Ouest France a sorti un article récemment montrant que M. Gana avait, Jean-Luc Gana, avait été le président d'une éphémère société qui s'appelait Communotech. Et qui était une société qui vendait de la vidéoprotection, enfin surveillance.
Ah.
Voilà. Lui qui quand même dernièrement, surtout pendant le Covid, se faisait le champion de la lutte contre l'État... qui veut nous imposer des caméras partout alors qu'il suffirait d'arrêter les racailles et tout ça serait réglé. L'état policier un peu, enfin voilà, d'après lui, il a critiqué, d'après nous, enfin nous, on a vu qu'il a critiqué souvent la vidéo surveillance Et il a été président pendant un an d'une société qui s'appelle Communotech.
Et qui vendait de la vidéosurveillance.
La vidéosurveillance. Ouais. Mais alors, le plus drôle, c'est qu'en fait, cette société, donc, nous, on a recreusé un peu l'article de Ouest France là-dessus.
Oui.
C'est-à-dire que cette société, eh ben, en fait, elle est pour nous crapuleuse. Ils ont vendu une fois de la vidéosurveillance à une commune du Bas-Rhin.
D'accord.
En de l'eau. Et les travaux ont été, c'était la fourniture d'un système de 4 caméras. Et en fait, au moment où la commune s'est rendue compte que ça correspondait pas au cahier des charges, au moment où les gendarmes sont venus pour, il fallait que la gendarmerie soit a priori là pour officialiser, à agréer le système de vidéosurveillance. Il correspondait pas au cahier des charges. Et la société a disparu, a déposé le bilan.
Oui, c'est donc ce qu'on appelle une société écran. Hein.
Voilà, cette société a piqué 14 000 euros à la commune d'Andelot.
D'accord.
Et puis a disparu. Et M. Gana a été, était à ce moment-là le directeur de cette société. Mmh. Et en fouillant un peu, on se rend compte que cette société a plusieurs actionnaires aussi.
Oui.
Qui renvoie à ce qu'on appelle un peu la good connection.
Ah, c'est intéressant, ça. Raconte-nous
voilà,
ça.
Autour de Monsieur Chatillon.
Oui. Oh là là. Et est-ce que je peux dire un tout petit mot? Oui, parce que bon, Frédéric Chatillon, qui a dirigé la société Riwal, qui fournissait le micro Partijane. Hein, donc là, c'est tout ce qui est logistique pour le Rassemblement National. Hein. Frédéric Chatillon, c'est un très vieil ami de Marine Le Pen. Il a été condamné d'ailleurs récemment à même de la prison ferme, parce que lui, vraiment, il est allé très loin dans la magouille. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais en tout cas, oui. Par exemple, eux. Au niveau société écran et embrouille juridique, ils savent faire, ce sont des experts, hein, que ce soit Chatillon ou même Axel Lousteau qui dirige une holding hein, ou une société commerciale et industrielle, mais derrière laquelle en général se cache rien du tout, ou en tout cas il y a mensonge très clair sur le but de cette société, de ces sociétés en question. Donc là aussi, est-ce qu'on peut approfondir un petit peu, Thomas?
Oui, nous en fait ce qu'on a remarqué au sein de cette affaire de Communotech, c'est qu'ils étaient associés à deux sociétés, donc le groupe RR, qui est le groupe de Frédéric Chatillon, et la société Somme Invest, qui est proche un peu de quelqu'un qui s'appelle Paul-Alexandre Martin, qui
D'accord.
est un jeune,
oui.
A été le colocataire, par exemple, de Julien Rochedi.
Ah oui, ancien président du FNJ, Julien Rochedi.
Voilà. Et donc, ce gars-là, il a monté une holding qui s'appelle Somme Invest, et qui gérait un peu pour Marine Le Pen tout ce qui est création de sites internet, community management, photographie officielle lors
des campagnes.
Tu peux
redire son nom, s'il te plaît, pour que je retienne bien?
Paul-Alexandre Martin.
C'est la première fois que j'en entends parler, hein, pour ma part. Donc, vas-y, approfondis un petit peu.
Et donc, lui est aussi associé à cette société Communotech. Et donc, avec le groupe RR proche de Chatillon. Et donc, ils ont vendu...
Le groupe RR, c'est ça?
Ouais, ERR.
Ah, ERR, d'accord.
Non, ERER.
ERER, d'accord.
Exactement. Et donc, ils ont vendu cette vidéoprotection à une commune en faisant une belle plaquette qui est mensongère. Parce que, par exemple, ils disent que leur société fournit les sites militaires, des sites diplomatiques, des infrastructures de l'État.
D'accord.
Et le journaliste de Ouest France a prouvé que c'était pas du tout vrai. Donc, c'est un mensonge. Et ils ont créé cette société, créé une belle plaquette. Ils étaient présents au Salon des Maires en 2015 pour vendre leur truc.
C'est quoi le Salon des Maires?
C'est un salon qui se tient sur Paris, où il va y avoir toutes les sociétés qui ont des choses à vendre pour les collectivités locales, territoriales, pour les maires en fait, pour les communes.
Ah oui, société des maires, MAIR.
J'ai dit société, ou le Salon des Maires plutôt.
D'accord, ok.
Salon. Et donc ils étaient présents à ce salon et une fois qu'ils ont vendu leur système de vidéosurveillance à cette commune, ils ont envoyé le matos, ils ont disparu. Donc en fait, c'est vraiment, je pense, une escroquerie. Mmh. Monsieur Gana était le président de cette société qui, après, a déposé le bilan. Donc, on se demande, on se dit, mais tiens, cet argent, elle est passée où et justement, à quoi ça a servi? Parce qu'en fait, cette société, on ne peut pas dire que ce n'est pas une société qui a fait faillite parce qu'elle a vraiment été montée pour, une fois, vendre cette vidéoprotection à cette commune et puis après disparaître. Donc, pour nous, c'est vraiment. Voilà peut-être la façon dont se finance l'Alvarium. Avec des escroqueries, peut-être,
oui,
on ne sait pas.
Peut-être, mais si c'est avec des sociétés qui déposent le bilan après un seul acte de vente, voilà. On se pose des questions quand même, effectivement.
Voilà, c'est louche.
Oui, bah oui, tu m'étonnes. Mais est-ce que du coup, on a d'autres liens avec ce que tu appelles la Good Connection, hein, grossièrement?
Oui, ouais.
Alors,
ouais.
Vas-y.
Tout à fait. En fait, Jean-Yves Gana, il a travaillé lors de la campagne... de Marine Le Pen, la dernière campagne présidentielle, il a travaillé pour Riwal.
Ah, ben voilà, on y vient.
Il devait être le correspondant de Riwal pour tout ce qui est kit de campagne,
oui,
au niveau ouest, en fait.
D'accord. Ah oui.
Il a travaillé aussi pour ce qui s'appelle le Carré Casa à Casablanca.
Oui, ça, oui, ça aussi, voilà. Un lieu de la, ils ont le, oui, ce que donc on appelle la Good Connection, a une assise à Casablanca, mais aussi à Rome. Mais est-ce que t'as des choses à dire particulières du coup sur leur antenne entre guillemets de Casablanca?
Non, pas plus de choses que je on maîtrise pas trop ce côté-là. On sait que Jean-Yves Gana a travaillé pour le Caracasa, puisque sur ses réseaux sociaux, il a longtemps posté des photos de lui à Casablanca.
Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, ce Carré Casa, déjà, du coup?
Je sais pas trop. Je crois que c'est un lieu de sociabilité pour les entrepreneurs, il me semble. Mais je peux pas en dire trop plus.
Oui. Bah, après, ça reste quand même très intéressant parce que bon, il y avait eu un reportage de fait, je peux le dire. Hein, c'était France 2 qui avait fait le reportage sur les kits de campagne surfacturés.
Voilà.
Avec le fameux Nicolas Crochet, là, le comptable. Il y avait donc Axel Lousteau, on en a parlé. Hein,
voilà.
Mais du coup, donc là, Jean-Eudes Gana aurait des liens avec tout cet univers.
Et ben, à ce moment-là, il a travaillé pour Riwal. Et voilà. Mais on se demande aussi de quoi il vit finalement. Mais on n'est pas trop, dupes. Il vient d'une grande famille bourgeoise. Voilà, peut-être que c'est lui le politicien de la famille pour reprendre un peu le côté politique de son père et que, bah voilà, sa famille le finance son implantation politique au niveau local, quoi, au niveau de la rue Angevine. Et,
oui,
et je pense qu'il a des visions peut-être à se présenter aux prochaines élections. Seront des élections régionales, quoi.
Ça arrive très bientôt, ça, d'ailleurs.
Pardon ?
Les régionales et même les départementales, oui, aussi, elles arrivent très bientôt, celles-ci.
Voilà, je crois, oui. Oui, donc, en effet, je pense qu'à ce moment-là, on risque de le voir peut-être se présenter sur... créer sa liste.
Ouais. Et la famille Gana, elle vit de quoi, du coup, si on ne sait pas trop de quoi Jean-Eudes vit, on peut peut-être savoir de quoi les autres vivent, non?
Alors là, oui, je crois que le père donc était travaillait dans le milieu de courtier en assurance.
Oula, oui, d'accord, oui.
Voilà. Après, je ne voudrais pas dire vraiment sur les autres personnages pour pas dire des trucs que je ne maîtrise pas.
Non, mais déjà, c'est quand même pas n'importe quoi. Je veux dire, l'assurance, non, c'est un milieu où on peut faire de l'argent facilement dès lors qu'on a, dès lors qu'on peut saisir les bons coups, hein, entre guillemets. Oui. Donc déjà, ouais, s'il performe financièrement dans ce domaine-là, effectivement, il peut et a même intérêt à entretenir des mouvements comme l'Alvarium qui sont vraiment qui embrouillent la galerie à tous les niveaux, quoi.
Oui.
Bon. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par rapport à l'Alvarium? Là, je précise, deux secondes, Thomas, il est 18h17 hein, sur Radio Libère.
Oui.
18h17, excuse-nous. Hein, non, il est bien 18h17, excuse-moi.
Oui, c'est ça.
Oui, excuse-moi du coup.
Non,
mais c'est surtout que je suis un peu paumé là avec l'heure d'hiver et tout ça. Mais bon, du coup, il est 18h18 là désormais et à 25, on rend l'antenne. Donc en
d'accord,
gros, là, on va plutôt conclure. Qu'est-ce que du coup, on peut rajouter par rapport à l'Alvarium qu'on n'aurait pas encore mentionné?
Alors, on n'a pas aussi mentionné leur proximité Et ça rejoint une enquête qu'on a fait, ça aussi, qu'on a menée il y a peu de temps. Mm-hmm. Leur proximité avec Academia Christiania.
Ah, Academia Christiana. C'est Christiana. Christiana. Ou Christiana. Ok.
Voilà. Qui est un espèce, pour moi, après, si tu connais plus le truc, tu pourras me compléter, mais qui est pour moi une espèce de think tank d'extrême droite nationaliste et catho-intégriste.
Oui.
Un mouvement qui chaque année se fait une université d'été, mm-hmm. qui est fréquentée par 200, 300 personnes pour réfléchir sur des idées proches de l'Avarium finalement.
Depuis quand il existe ce mouvement, je te coupe, hein, mais depuis quand il existe, parce qu'on en a très brièvement parlé quand Hervé Delorde est venu ici. Ouais. Pour ma part, j'ai pas une grande connaissance de ce mouvement. Est-ce qu'on peut rapidement développer déjà quand est-ce qu'il s'est créé, ces universités d'été, depuis quand est-ce qu'il les fait, est-ce qu'on peut creuser un peu?
Oui, c'est un mouvement qui est créé depuis 2013 à ma connaissance. Et qui est organisé par un militant qui s'appelle Victor Aubert.
Ah oui, ça me dit quelque chose, ça.
Voilà, et donc c'est un mouvement qui a longtemps fait donc ces universités d'été dans l'Orne, à C, commune de l'Orne,
ouais. Okay.
Et dont ils ont été un peu, enfin virés, je sais pas, mais la commune ne voulait plus trop qu'ils soient présents. Ils ont été obligés de changer de lieu suite à des Monsieur Aubert, il s'est pendant le mouvement des Gilets jaunes, il a essayé de s'implanter au sein du mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Et puis des gens à ce moment-là ont rappelé des photos qui traînaient sur les réseaux sociaux. On voyait ce monsieur faire un salut nazi ou des choses comme ça. Et donc la commune où il organisait ses universités d'été chaque année, ne voulait plus qu'il s'y repasse. Et nous, ce qu'on a découvert, c'est que les universités d'été de cette année se sont déroulées dans un lycée. Du nord du département à Notre-Dame d'Orvault. Mmh. C'est un lycée privé,
oui.
Qui contrat avec l'éducation nationale,
oui.
Mais avec une ligne politique très à droite, puisqu'en fait, des tas de personnes de l'extrême droite sont passées par là, ont fait leurs études là. Les enfants de Marine Le Pen. La personne qui a dirigé ce lycée devait être de la famille du fameux Cacré que vous connaissez.
Oh, voilà. Marc de Cacré Valmenier,
voilà.
Oui, qui a un oncle à lui à la fraternité Saint-Pidis, ouais.
Voilà, et une autre personne, alors ouais. Je ne saurais plus dire les liens de famille, mais si c'est pas un autre oncle à lui aussi qui dirigeait jusqu'à il y a très peu de temps ce lycée.
Et
donc pendant les vacances, cette Academia
Christiana
a organisé son université d'été là. Un peu en catimini, puisque le lieu n'était pas possible. Enfin, il fallait s'inscrire pour connaître le lieu, bien sûr. Et nous, on avait des larges soupçons que ça allait se dérouler dans notre région. Et en effet, ça a pas loupé. L'Alvarium était très présent dans le côté d'ailleurs logistique de cette université d'été. On sait que c'est eux qui ont fait la nourriture pendant plusieurs jours, enfin voilà, qu'ils ont été très présents. Et je pense qu'idéologiquement, on peut dire que c'est vraiment le mouvement que c'est un mouvement très proche d'eux. Et donc ça, on l'a trouvé, nous, on a sorti l'info, qui a avéré être vrai, que cette université d'été s'est déroulée dans ce lycée.
Oui.
Et qui a été présent, par exemple, pour le concert de... Il y a eu un concert qui a été donné et c'était le groupe Match Retour, il me semble.
Ça me dit rien, mais vas-y.
Ah non, c'était le groupe nationaliste FTP.
FTP.
Oui, qui a donné le concert de fin de cette université d'été. Mais vraiment, il y a à noter que ce lieu, ce lycée, ce collège aussi, peut-être qu'il y a du collège aussi à cet endroit, enfin a vu passer des tas de gens d'extrême droite, a fait aussi dans son sein venir par exemple Jean-Frédéric Poisson, proche de la manif,
oui, du Parti Chrétien Démocrate en effet.
Reynald Séché, un historien qui est l'historien pour moi qui défend la thèse du génocide vendéen.
Ah, oui. Bah, rapport au Chouan.
Voilà. Et puis, c'est un lieu qui. Oui, c'est le. C'est un lieu qui est un peu central pour nous dans le parcours de beaucoup de militants d'extrême droite d'Angers et du reste de la France d'ailleurs. Donc, c'était pas illogique que l'université d'été de cette Academia Christiana se déroule à cet endroit.
Ok, et tu sais quoi, alors je pense que ce serait intéressant, parce que là grossièrement l'émission est finie, hein, oui. Je pense que ce serait intéressant qu'éventuellement au cours d'une autre émission on développe encore un petit peu plus à la fois sur l'Alvarium mais aussi sur Academia Christiana.
Oui.
Est-ce que ce serait envisageable de te reprendre à l'antenne, pas pour la prochaine émission parce qu'on a déjà un autre invité, mais peut-être pour celle d'après, en novembre par exemple, je te demande ça comme ça à l'antenne, tu me réponds ce que tu veux, mais est-ce que ça t'intéresserait, toi ?
Ce serait possible, je pense qu'il y a encore des choses à dire. Sur Academia Christiana, il y a peut-être des personnes plus spécialistes que nous, mais je pense que on a encore à creuser, à vous expliquer peut-être des...
Par rapport à l'Alvarium ?
Par rapport à l'Alvarium, il y a plein de choses encore qu'on pourrait dire, en effet.
Ok, très bien.
Et j'invite les auditeurs, donc justement, à consulter notre blog... raf.noblog.org.
RAF pour Réseau Angevin Antifasciste.
Exactement. Et là, vous trouverez tous les articles qui creusent un peu toutes les questions qu'on a évoquées ce soir. Et puis, nous rejoindre pour les Angevins qui pourraient nous écouter ou les gens qui viennent sur Angers, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la rue sur les manifs qu'on peut organiser.
Mmh.
Et un dernier truc qu'on pourrait d'ailleurs creuser, enfin c'est un peu trop tard là maintenant, tu me dis, mais
vas-y.
Enfin, on a aussi un gros point à creuser, c'est le fait que des gens de gauche se disent qu'on pourrait peut-être aller discuter avec l'Alvarium, qui organise des débats avec une personne de l'Alvarium, et là c'est
ça sent vraiment
confusionnisme.
Le confusionnisme, oui, je pense que c'est un mot qui est...
Ouais, voilà.
Je pense que c'est un mot
on a
qui...
On a eu un cas dernièrement sur Angers de ça, et
okay,
on pourrait développer là-dessus.
Alors
voilà.
Ce qui va se passer, c'est que je vais te retirer de l'antenne. Ne quitte pas, parce que je te reprends 2-3 minutes au téléphone après, sachant que là, donc, on va laisser la place à l'émission Femmes Libres jusqu'à 20h30. Donc là, je te retire de l'antenne. Alors, auditeurs et auditrices de Radio Libertaire et d'Actualités Antifascistes, l'émission... est terminé, et un grand merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Prochaine émission, mercredi 11 novembre, toujours à 17h, en compagnie normalement de monsieur Grégory Chamba, auteur aux éditions Libertalia d'un livre baptisé L'école des réacs publicains, à propos du développement de la pensée réactionnaire dans et autour de l'école. En attendant, comme je le vous disais, vous avez rendez-vous là tout de suite, d'ici 5 petites minutes, avec l'émission Femmes Libres jusqu'à 20h30. Et du coup, pour ma part, je vous souhaite une excellente écoute des programmes sur Radio Libertaire. À bientôt, et d'ici là, je vous invite tout de même, si vous souhaitez, à aller sur le site anarchiste.info/radio/libertaire pour capter le podcast de notre émission et accessoirement d'autres émissions que vous pourriez apprécier sur l'antenne de notre radio. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, et puis ne quittez pas, restez sur l'antenne de Radio Libertaire pour l'émission Femmes Libres. Allez, salut, à bientôt.